Les histoires de Pyrènes, pour curieuses et curieux des Pyrénées. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pim à la technique, Philippe au récit. Passer derrière la montagne, franchir la crête frontalière est un moment particulier. La satisfaction d'avoir gravi la montagne se mêle à la joie de découvrir de nouveaux horizons. Les femmes et les hommes qui parcourent les Pyrénées connaissent bien cet instant précieux. Et ce n'est pas tellement le fait de changer de pays. Mais pour les gens du Nord, comme moi, c'est surtout le fait d'aller vers le Sud, sans entrave, par des sentiers à l'odeur différente, sous une lumière différente, vers des gens à la culture un peu différente. Sans pouvoir expliquer pourquoi, tout est différent. Bien sûr, si on réfléchit, on pense à l'histoire, à tous ceux qui nous ont précédés. Des premières tribus venues du sud qui ont poussé leurs troupeaux à travers les ports pour faire paître les verdoyants pâturages des versants nord. Si l'on pense aux armées innombrables, à toutes celles et ceux qui ont fui les inquisitions, les répressions et parfois la misère, on est un peu pris de vertige. Souvent, quand nous rentrions de Navarre, nous nous arrêtions au col de Roncevaux. Tout ça pour une dernière photo. Jusqu'au jour où un collègue d'origine espagnole me dit « Tu sais, Philippe, je n'aime pas cet endroit. Je ressens trop de souffrance, trop de peur. Je suis sensible à tout ça. » Depuis, je dois avouer que je ne m'arrête plus à Roncevaux et je descends directement à Saint-Jean, petite ville joyeuse et active. Que dirait mon collègue s'il passait par le col frontalier des Neuf Croix, situé au-dessus du sanctuaire de Nouria, en Catalogne, avec toutes ces croix plantées en plein passage en souvenir de victimes de tempêtes. Mais après réflexion, je préfère penser à toutes celles et à tous ceux qui, en passant les cols ou les ports pyrénéens, avaient le cœur gonflé d'espoir pour une vie meilleure. L'histoire qui suit me vint une discussion. Une fois dans une vallée perdue, une femme me dit « Vous qui êtes de derrière la montagne, vous pourriez chercher. » Pendant la guerre, des hommes ont fui par l'école. Au-dessus du village, il y a une chapelle. Ils ont dormi et au matin, ils sont partis en emportant une image. Vous pourriez la chercher. Cette demande me surprit, d'autant plus que c'était la première fois que je voyais cette personne. En rentrant, je me posais des questions. Pourquoi ces hommes avaient emporté la peinture? Par superstition? Avaient-ils eu peur d'affronter la montagne et ses dangers? Ces questions resteront sans réponse. Car, ne me sentant pas une âme de détective, je ne chercherai pas. Le fait est que dans les montagnes, beaucoup de contes et de légendes font état d'une disparition ou d'une apparition de statuettes. Pour nous mettre en condition, le morceau de musique que nous allons écouter est « Danse avec la neige », composé par Christine Hoth. Christine Hoth est une pianiste, compositrice et virtuose des ondes de Marteneau, un instrument de musique bizarre que je vous invite à découvrir. Maintenant, fermez les yeux et regardez la neige tomber. Danse avec la neige. Thank you. L'homme était parti très tôt ce matin. À la nuit, il avait quitté la ferme où on le cachait depuis quelques jours. Il voulait fuir, partir. On lui avait dit que ce n'était pas une bonne idée, mais il était parti. Une dernière fois, il avait soupé avec la mère et le fils, donné un peu d'argent, et après de courts adieux et quelques heures de sommeil, il avait pris le chemin. Au début, cela montait peu, puis ce fut plus raide à travers les petits arbres. Au lever du jour, il était dans la grande forêt de hêtres, et la neige tombait doucement. Aucun bruit autour de lui, juste le bruissement des gros flocons qui s'écrasaient sur le sol. En s'arrêtant pour reprendre son souffle, il contemplait les arbres gris sans feuilles, le sentier noir. Seules les mousses et les lichens, gorgés d'eau de neige, apportaient de la couleur, un vert presque fluorescent. Une grande mélancolie se dégageait du paysage. L'annonce de l'hiver. Mais l'homme n'était pas inquiet. La sueur qui coulait sur son front sous le bonnet le rassurait. Il avait chaud, il fallait qu'il monte plein sud, suivre le sentier. De temps en temps, il regardait sa boussole. Le fils lui avait dit « En haut de la vallée, tu vas buter sur une falaise, et là, il faudra que tu partes à main droite. Une demi-heure plus tard, tu passeras le col. Si tu es fatigué avec la neige, tu pourras te reposer dans une vieille cabane près du ruisseau, au-dessus de la forêt. Ça me prend le temps de fumer une cigarette pour la trouver. On l'appelle la cabane de la nôtre. » Passé la forêt, la neige était maintenant profonde. Marcher devint pénible. Les pieds mouillés, le pantalon mouillé, la veste mouillée. Le froid avait saisi le corps de l'homme et il eut peur. Il pensa à la cabane de la nôtre. Comment évaluer le temps de marche, lui qui ne fumait pas? Et puis, avec cette neige, maintenant, il montait sans réfléchir, sans penser, juste trouver la cabane. La peur vient avec le froid, se dit-il. La neige profonde cachait le sentier et les énormes rochers, recouverts de neige, ressemblaient tous à de lointaines cabanes. Après avoir couru de bloc en bloc, il comprit qu'en faisant ainsi, il ne la trouverait jamais. Il écouta la montagne et le ruisseau, dont le bruit lui parvient à ses oreilles. Il descendit doucement jusqu'à lui. En ce début d'hiver, les eaux n'étaient pas encore prises dans le gel. Il marchait depuis longtemps. Alors qu'il remontait la pente et que le paysage gris s'assombrissait encore, sa boussole pointant le sud, il vit la cabane au bord du ruisseau. Elle était facile à trouver, en fin de compte. Il y avait un arbre près d'elle. Quand il entra dans la cabane, même s'il faisait froid, contrairement au dehors, à l'intérieur tout était sec. Le sol, le bas-flanc, le bois près de la cheminée et les couvertures pendues aux poutres, à l'abri des souris. En voyant la cheminée, il eut envie de faire un feu, mais il se souvint. Le fils avait dit « Pas de feu, l'odeur de la fumée se répand dans la vallée. Si on te cherche, on te trouvera. » Il se déchaussa, retira ses habits mouillés et se mit dans une couverture. Petit à petit, son corps se réchauffait. Il eut faim. Dans son sac, il prit un morceau de pain et de fromage, but à la gourde du vin coupé, avec de l'eau et puis un peu de sucre. C'était la mère qui lui avait donné ce breuvage. Puis, il eut envie d'allumer la bougie, posée sur la cheminée. Alors, avec l'aide des couvertures, il occulta la petite fenêtre et la porte, afin qu'aucun rayon de lumière ne sorte de la cabane. Puis il enflamma la bougie. D'abord, longuement, il se réchauffa les mains, puis leva les yeux. Il était rassurant de voir comme tout était à sa place. Un détail attira son regard. Dans un renforcement du mur, une forme étrange se tenait, avec deux yeux blancs qui le regardaient. Il s'approcha. À la lueur de la bougie, il discerna comme une statue. une vierge sculptée dans un morceau de bois. Elle avait dû être peinte autrefois, mais la peinture s'était écaillée et il ne restait que plus que le blanc des yeux, ce qui lui donnait l'étrange impression d'être observé en permanence dans la cabane. L'homme ignorait toutes les croyances des gens de la montagne, mais soudain il comprit. Cette vierge, c'était la nôtre, celle qui protège. Voilà pourquoi la cabane était la cabane de la nôtre. Il se coucha sur le bas-flanc, sous le regard de la statue. Il rêvait des bruits de la ville, des terrasses de cafés bondés, de jeunes gens qui, comme lui, refaisaient le monde. Petit à petit, il s'endormit tout à fait. Quand il se réveilla, il faisait noir dans la cabane. Il pensa aux couvertures qui cachaient la petite fenêtre et la porte. Il ralluma la bougie, prit le pain et le fromage qui restaient et but du vin coupé. Après, ce fut difficile de s'habiller. Une fois fait, il se mit à ranger, plia les couvertures, les pendit aux poutres du plafond. Tout était à nouveau parfait. Maintenant, il fallait sortir. Quand il ouvrit la porte, un peu de neige du toit tomba dans la cabane. Il ne neigeait plus, mais il faisait gris, et le brouillard était si épais qu'il ne voyait pas l'arbre tout près. Il faisait froid et il eut peur. Il se retourna vers l'intérieur de la cabane. Ses yeux firent le tour de cet espace maintenant si familier, et il vit que la nôtre le regardait. Alors, sans réfléchir, il la glissa dans son sac à dos et referma la porte de la cabane. Il descendit jusqu'au ruisseau, prit sa boussole et visa le sud. Le fils lui avait dit « jusqu'au pied de la falaise ». En marchant, il souriait. Qu'auraient dit ses amis, lui, s'il l'avait vu, lui, l'anarchiste, se mettre sous la protection d'une statuette en bois. Longtemps, il remonta la vallée. Le ruisseau avait disparu depuis longtemps sous la neige. La seule et seule la boussole le guidait vers le sud. À bout de force, il buta sur une paroi de pierre. Il essaya de passer à droite, à gauche, mais à chaque fois il ne put. Enfin, il comprit qu'il avait atteint le pied de la falaise. Alors, comme lui avait dit le fils, il partit à main droite. « Encore une demi-heure, se dit-il. » La demi-heure était passée depuis longtemps, quand dans le brouillard, il lui sembla que le sol était plat. Et tout à coup, il aperçut le tas de cailloux qui marquait le passage. Le fils avait dit « Après le col, il y a deux vallons, ne te trompe pas. Le premier part vers le sud, mais l'autre te ramènera au nord. » Adossé au cairn, il réfléchit et mit sa main à la poche. Chercha un moment en vain, la boussole avait disparu, perdue, sûrement tombée dans la neige. Comment allait-il faire sans elle? Une angoisse terrible le tenait immobile à son tas de cailloux. Le dos contre les pierres, il sentit quelque chose de dur dans son sac. C'était la statuette. Alors il pensa à la nôtre, celle qui protège les femmes et les hommes de la montagne. Il se mit à réfléchir. Je suis monté plein sud. Je suis parti à main droite, vers l'ouest. Je vois encore mes traces. Donc je vais partir main gauche pour le sud. Il quitta inquiet le cairn et descendit doucement. D'énormes rochers lui barraient le passage. Il contourna, escalada ce labyrinthe, tant et si bien qu'il n'eut plus aucune notion de la direction. Nord, sud, est, ouest, dans ce brouillard, il était perdu, égaré. La seule chose qu'il voyait, c'était la pente. De toute façon, il fallait descendre. Nord ou sud, il fallait descendre. Il prit la pente et marcha longtemps. Maintenant, la couche de neige était moins épaisse. Cela le rassurait, mais la question restait, descente vers le nord ou vers le sud? Le brouillard lui sembla plus léger. Il se retourna pour voir le chemin parcouru. Derrière lui, posé sur la neige, son ombre. Cela faisait 2 jours qu'elle avait disparu. « Ah, te voilà, toi » dit-il. Puis il se figea. Il avait compris. qu'à presque midi, si son ombre était dans son dos, c'est qu'il marchait vers le sud. Il était sauvé. Petit à petit, la neige laissa place à une pelouse d'herbe glissante, avec des bosquets de pins. Sous un arbre, il but une dernière gorgée de vin et descendit plus rapidement. Déjà, au fond de la vallée, il voyait le village. Et en pensant au fils, qui ne se trompe jamais, il se dit « Bientôt, je sentirai les odeurs de fumée. » Il était heureux. Mais quelque chose l'intriguait. Son sac lui faisait mal au dos. Il ne l'avait pas remarqué jusque-là, mais le bois dont était faite la nôtre était dense, lourd et dur. Il comprit qu'il ne devait pas la laisser, qu'il devait la laisser dans la montagne, dans sa montagne. Versant nord, versant sud, peu importait, mais elle devait rester là. Il vit un abri sous un rocher. Un petit mur protégeait la cavité du vent du nord. Il y dressa la nôtre, au fond, bien calée. Du chemin, on pouvait voir l'étrange silhouette abritée sous sa pierre, avec deux yeux blancs qui vous regardaient sur le sentier. L'homme fit un geste d'adieu et il prit le sentier léger. Au printemps, scandale dans la vallée. La cabane de la nôtre était vide. La statuette avait disparu. Qui avait pu voler cette relique, la protectrice de la communauté? Pire encore, elle avait été retrouvée derrière, sur le versant sud, bien abritée sous un rocher. Comment avait-elle bien pu se retrouver là? Surtout que l'hiver avait été terrible et personne n'était assez fou pour traverser la montagne en cette saison. Les bergers voulurent aller la chercher. Mais déplacer une relique ne se fait pas impunément. Cela porte peut-être malheur. Alors la statuette resta sous son rocher. En pensant à cette histoire, le fils qui savait tout souriait. Oui, il souriait. Car il savait que dans 2, 5, 10 ou 50 ans, peu importe, la nôtre reviendrait dans la cabane. Voilà, c'était l'histoire d'un passage. Pour finir, nous allons rester dans la mélancolie joyeuse de Christine Hott, un morceau dont je ne sais pas prononcer le titre, mais que je trouve très beau. Voilà. Pim et moi, nous vous disons au mois prochain pour une histoire complètement différente, toujours tirée des cahiers de Pirène. À bientôt.